Bonjour à tous. Êtes-vous en forme après une louange comme ça? Oui. Good. Merci à l'équipe. Hein? C'est vraiment bien. Ça a bien été. Oui. Hey, c'est quoi le sujet qui agace le plus les femmes?
Les hommes ont raison.
Là, tu vas y avoir un restaurant, là. C'est quoi? C'est surtout dans la Bible, vous savez, dans l'Église, c'est quoi? Ah oui, c'est ça, la soumission, hein? C'est vrai, la soumission. Ah, on n'aime pas ce mot-là, hein? La soumission. Et écoutez, je peux comprendre. Définitivement, je peux comprendre parce que certains hommes, pas tous les hommes, là, honnêtement, il y a des super de bons maris, là, puis c'est vraiment des beaux modèles, on aime ça, mais certains hommes n'ont vraiment pas compris leur rôle comme mari. Et quand la Bible dit que l'homme est le chef du foyer, comme ça le dit dans 1 Corinthiens 11, ils n'ont pas compris que, dans le fond, c'est d'être des serviteurs. On l'a déjà dit que l'autorité qui est confiée aux hommes d'être un berger dans ton foyer, c'est de prendre soin du cœur de ta femme et de tes enfants. On l'a déjà dit que l'autorité a pour mission de servir et non pas de se servir et encore moins d'asservir. Alors, tout comme Jésus d'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus est le chef suprême de l'Église, qui est son épouse. L'Église est son épouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré lui-même pour elle. Il dit dans Marc 10, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. On voit dans Philippiens 2 d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, quoi, n'a pas cherché ses intérêts, mais cherché les intérêts des autres. C'est ça être un bon mari, c'est de prendre soin de son foyer, de sa femme, de ses enfants. Et ça dit d'ailleurs dans les Écritures constamment que c'est le service, c'est d'être au service de notre foyer, de prendre soin, d'être le berger spirituel de son foyer, d'emmener tranquillement, de prendre soin physiquement, émotionnellement, intellectuellement, mais aussi de conduire sa famille vers le Seigneur de plus en plus. Et c'est ce que l'Évangile fait. L'Évangile transforme le mariage. Marie et femme qui ont mis leur foi en Jésus-Christ ont été, de par leur position maintenant qu'ils sont en Jésus, ils ont une nouvelle identité, ils sont nés de nouveau. Ils ont été rachetés, transformés et restaurés en Jésus-Christ. Alors nous voulons apprendre à vivre cette nouvelle identité, cette nouvelle transformation. Comme enfants de Dieu, nous voulons assumer notre rôle à chacun, femme et homme, en Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Les maris ont reçu la responsabilité par Dieu d'être un bon responsable du foyer, d'être le berger. Et la femme comme aide, comme appui. Le même mot « aide » dans Genèse est employé pour Dieu et qui est une force. Et les hommes qui sont moindrement intelligents vont comprendre que leur épouse, c'est une force, c'est un atout, c'est une bénédiction que Dieu leur donne. Alors, il faut toujours se rappeler de cela et vraiment honorer nos femmes. Même un texte le dit dans le Nouveau Testament que lorsqu'on n'honore pas nos femmes, même nos prières en sont affectées. Alors, comme on le dit souvent, ce n'est pas une question de supériorité ou infériorité. C'est les deux, les hommes et les femmes, ont été créés à l'image de Dieu. Les deux ont reçu le mandat de dominer la terre. Alors, ce n'est pas une question de ça. C'est une question de rôle que Dieu a assigné dans sa souveraineté. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et on se rappelle, et vraiment, c'est un encouragement, de savoir que le Saint-Esprit nous accompagne dans notre rôle pour assumer notre rôle. Et comme on a vu la semaine dernière avec Alex, avec le panel des hommes, il nous rappelait cette conférence de Dominique Anger où il disait « Dieu donne ce qu'il ordonne. » Amen. Il nous donne la capacité, par la grâce de Dieu, d'assumer notre rôle. Alors, on est en train de regarder 1 Timothée 2 et on a vu que tout le chapitre est un appel aux hommes et aux femmes de prier pour le salut des gens, que les gens viennent à Jésus-Christ, c'est le thème de tout le chapitre, et à vivre pour l'Évangile. Il nous appelle à vivre pour l'Évangile dans l'espoir de voir des gens autour de nous venir au Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu nous appelle à être ses ambassadeurs pour communiquer le merveilleux message de l'Évangile, afin que des gens autour de nous, que ce soit nos enfants, même peut-être des fois notre époux ou épouse, et des gens, des collègues de travail, qu'on se rappelle que nous sommes en mission pour Jésus-Christ. La semaine dernière, on a regardé les hommes, on a regardé c'est quoi vivre pour l'Évangile pour les hommes. Et ce matin, on veut s'arrêter, ça veut dire quoi vivre pour l'Évangile pour les femmes? Le passage qu'on va regarder ce matin ne couvre pas tout sur le rôle des femmes. La Bible est une révélation progressive. Alors, vous allez avoir certaines révélations d'un bord qui parlent peut-être de la communication, comme dans le livre des Proverbes. Ça donne beaucoup de conseils sur la communication dans le couple et dans nos relations. Ce passage ne parle pas des finances, ça ne parle pas de la sexualité. Il faut voir ailleurs dans les Écritures pour avoir un ensemble sur les rôles des maris et des femmes, et comme célibataires aussi, dans nos relations humaines. Non, le passage que nous allons voir se limite à un sujet. C'est un aspect qui s'inscrit finalement dans un problème que l'Église d'Éphèse avait et duquel Paul va soutirer certains principes pour nous aujourd'hui, des principes universels. Donc moi, j'aimerais ça regarder ça ensemble avec vous dans 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15. Alors si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans ce passage. 1 Timothée chapitre 2. Versets 9 à 15. Alors, verset 9. « De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour, la progression dans la sainteté. » Alors, comment une femme? On s'est posé la question ce matin, et c'est la question qu'on veut se poser. Comment une femme peut vivre pour l'Évangile? Eh bien, premièrement, je vais mettre le plan ici au complet pour vous aider un petit peu, pour ceux qui prennent des notes, parce que c'est un passage quand même assez difficile. Premièrement, une femme vit pour l'Évangile en répandant une bonne odeur de l'Évangile. Ça, c'est le verset 9 et verset 10. « Je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. » Une femme, donc, qui vit pour l'Évangile, qui veut être en mission, comme l'exhorte tout le chapitre, c'est tout le thème du chapitre 2, et qui a la compassion des âmes, la compassion des gens, veut les voir venir à Jésus-Christ, qui veut conduire les gens à Christ, va centrer sa vie sur Jésus. Elle a une vie donc spirituelle, elle est consacrée. Sa vie est une force attractive. On est touché par son témoignage, par sa beauté intérieure, son cœur, sa piété et son amour pour Jésus. Sa vie est donc une force attractive. C'est un témoignage et d'un côté, elle affirme sa foi, mais elle fait aussi du bien autour d'elle, dans sa communauté. C'est pour ça que Paul dit ses bonnes œuvres. Verset 10, « Se pare avec des œuvres bonnes, comme cela convient des femmes qui affirment honorer Dieu. » Alors, voici une femme qui affirme aimer Dieu, et son amour pour le Seigneur va se traduire dans son quotidien. À première vue, on pourrait penser que Paul est en train d'interdire les femmes de bien s'habiller. C'est comme un peu comme si Dieu, à première vue, c'est comme si Dieu disait aux femmes, « Bien, habillez-vous en guinéou, puis vous allez être spirituel. » Ça donne cette impression-là, à première vue. Là. Mais on sait que ce n'est pas ça, et ça doit être d'autres choses, parce que nous lisons dans le livre des Proverbes, Proverbe 31, où ça fait l'éloge de la femme vertueuse, et c'est une femme de Dieu, ça ne cesse de faire des éloges de cette femme, c'est une femme d'affaires, une businesswoman, elle gère des employés. D'ailleurs, les archéologues ont trouvé que les grandes maisons dans l'Antiquité pouvaient avoir jusqu'à 100 employés. Alors, vous pouvez imaginer cette femme qui semble donner des ordres à des employés, peut-être en train de gérer une entreprise de 100 employés. Donc, c'est une femme d'affaires. On la voit aussi sortir, vendre du vêtement. Les mots hébreux suggèrent que c'est même des sous-vêtements pour femmes. Et donc, voici une femme d'affaires, mais aussi une femme consacrée au Seigneur. Et ça dit au verset 22 qu'elle est louée pour ses vêtements sophistiqués, ses habits en fin lin et en pourpre. Il faut savoir que les archéologues ont découvert la technique pour faire du tissu et cette teinture pourpre. Et ça coûtait tellement cher que c'était juste les gens riches, très riches, et même la royauté qui pouvait se permettre ce genre de linge-là. Alors, voici cette femme qui s'habille chez Nordstrom au centre Rideau. Là. C'est une femme là, qui est très à l'aise, s'habille très bien. Et non seulement ça, c'est qu'elle est louée et félicitée pour ça. Mais qu'est-ce qu'on voit un peu plus loin? C'est qu'elle donne de l'argent aux indigents, elle aide les indigents. D'ailleurs, il n'y a absolument rien de mal avec l'argent et d'être riche, tant mieux. Salomon était multimillionnaire pour son temps. Sa fiancée portait des bijoux d'or, de l'argent. Rebecca en faisait autant. Alors, pourquoi Paul parle de linge dispendieux? Il faut comprendre qu'à l'église d'Éphèse, des femmes affichaient leur richesse pour s'arroger du pouvoir, du leadership dans l'église, selon ce qu'on peut déduire et comprendre. Voici certaines femmes qui étaient riches et parce qu'elles avaient un statut important, et c'était gros dans l'Antiquité, tu étais ce que tu portais. Dans l'Antiquité, ton linge disait tout de suite le statut que tu avais. Alors, on savait tout de suite que tu étais riche. Alors, mais à cause de cela, certaines femmes en profitaient pour prendre le leadership, prendre le contrôle de l'Église. Elles impressionnaient certains membres de l'Assemblée. Dans l'Empire romain, la vogue était aux cheveux longs et aux tresses. D'ailleurs, ça pouvait prendre, selon l'argent que tu avais, ça pouvait prendre jusqu'à 4 heures pour faire des montages sur tes cheveux. Même parfois, certains artistes réussissaient à créer des oiseaux sur la tête et tout ça, c'était incroyable ce qu'ils réussissaient à faire. Même un poète non chrétien du nom de Juvénal, qui existait au 1er siècle, va même critiquer cet étalage de luxe dans ce temps-là. Et ce n'est même pas un chrétien, là. Il va dire ceci. Il dit, « Que d'étages superposés, quelle substructure dans cet édifice. » Comment vous aimeriez ça, mesdames, si je vous dise, « J'aime tellement ta chevelure, ça a l'air d'un édifice. » Alors, c'est ça qu'il dit. Il dit, « Que d'étages superposés, quelle substructure dans cet édifice dont elle charge et surélève sa tête. » Il continue en disant comment elle ne se préoccupe pas du tout de son mari. Juvénal compare donc certaines coiffures à ces édifices. Il critique l'attitude de certaines femmes qui se préoccupaient plus de leur apparence que de leur famille. À l'église d'Éphèse, certaines femmes riches arboraient donc des coiffures savantes et s'endimanchaient aussi de robes très élaborées. Des archéologues ont découvert que certaines femmes se vêtaient d'ailleurs de robes qui coûtaient 7000 fois le salaire journalier, soit 20 ans de salaire pour la plupart des ouvriers. En argent d'aujourd'hui, on parlerait de robes qui coûteraient 1,5 million de dollars. Alors, ils entraient dans l'église dimanche matin comme ça, donc évidemment, prenaient de plus en plus de leadership. Et parce qu'ils étaient riches et tout ça, elles avaient du pouvoir. Alors que la plupart des femmes de l'époque, de cette époque-là, ne pouvaient pas se permettre plus que de 2 ou 3 ensembles de vêtements dans toute leur vie. Voyez-vous, là, les deux extrêmes. Ces femmes arrivent à l'église habillées comme pour aller aux Oscars. Alors, voici ce que prescrit Paul. Paul va revenir au cœur. Ce n'est pas l'argent qui le soucie. Tout ça. Tu peux être riche, tu peux arriver en Mercedes, en Audi, avec un chauffeur privé, aucun problème. Ce n'est pas là le problème, il revient au cœur. Tout est dans l'intention du cœur, que tu sois riche ou pauvre. La femme vertueuse, c'est ça qui est le premier point qu'il est en train de soulever. La femme vertueuse donnait aux pauvres. Rappelez-vous, Proverbe 31, elle donnait aux indigents, aux démunis, elle aimait les gens. Voyez-vous, les femmes dont la vie est centrée sur Jésus-Christ feront valoir la grâce et la beauté de l'Évangile. Amen. Quels que soient tes sous. Alors, une femme peut vivre pour l'Évangile, premièrement, répandant une bonne odeur de l'Évangile. Une autre façon aussi de vivre pour l'Évangile, c'est en s'instruisant de la parole de Dieu puis en les mettant en pratique. Voici ce que dit le verset 11. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Maintenant, c'était révolutionnaire pour l'époque d'encourager les femmes à étudier la parole de Dieu sérieusement. On le faisait un peu à la maison avec ça, mais c'était léger. On n'encourageait pas les femmes à étudier sérieusement l'Ancien Testament et tout le judaïsme et tout ça. Alors, c'était révolutionnaire pour l'époque que Paul exhorte les femmes à « Allez-y, étudiez la parole de Dieu et mettez-la en pratique ». À ce point-là, une femme du nom de Judith Wegner a écrit un article intitulé « L'image et la statue de la femme dans le judaïsme rabbinique classique ». Et là, alors, on parle justement des premiers siècles. Elle montre que la littérature juive de l'époque révèle clairement que les rabbins empêchaient systématiquement et intentionnellement les femmes d'étudier la Bible et les prescriptions juives. Elle montre des stratégies que les rabbins utilisaient pour garder l'étude sérieuse de l'Ancien Testament que pour les hommes. L'une des stratégies était d'empêcher les femmes juives de se réunir en petits groupes avec d'autres femmes juives pour étudier la Torah, l'Ancien Testament. Ils défendaient de ces groupes maisons entre femmes parce qu'ils voulaient garder le contrôle que pour les hommes, pour l'étude de la parole. Mais voilà que Jésus vient changer tout ça. Rappelez-vous comment il encourage Marie et, Marie et Marthe. Il encourage Marie qui s'assoit à ses pieds, qui était une expression rabbinique du temps, l'équivalent à un étudiant qui va dans une école théologique pour étudier, assis aux pieds d'un rabbin. On disait ça dans le temps. Même Paul a dit, j'ai été éduqué, j'étais assis aux pieds de Gamaliel. Ça fait la promotion de l'éducation et l'éducation spirituelle. Alors que la femme, verset 11, c'est également ce que signifie cette phrase-là au verset 11. Ça dit que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Voyez-vous cette expression-là, silence et soumission? C'était une formule qu'on connaissait, une formule dont on se servait à l'époque pour indiquer l'attitude de celui qui se tenait prêt à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est simplement une exhortation que Paul est en train de donner aux femmes, puis il dit aux femmes, les femmes, mesdames, les sœurs, instruisez-vous dans la parole et mettez-la en pratique. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Une troisième façon de vivre pour l'Évangile, elle exerce ses dons sous la responsabilité des anciens. Le verset 12 maintenant. « Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. » Maintenant, quelqu'un a dit que 98% de la Bible est simple à comprendre. Mais il y a un 2%, par exemple, c'est vraiment compliqué. Et là, on tombe dans un passage qui est vraiment compliqué. Quelqu'un a dit « Béni soit celui qui lit juste un livre, comme ça, c'est facile, tiens, il arrive tout de suite à une conclusion. » Alors que quand tu lis plusieurs livres, tu vois toutes les facettes, ça devient compliqué. Il y a même un gars du nom de Radloff qui a lu plus de 300 ouvrages et articles juste sur cette question. Puis il arrive, il a croisé à peu près 40 interprétations. Ça fait que c'est vraiment pas facile. Laissez-moi vous proposer ce matin, je vais vous proposer les quatre positions plus courantes de comment voir ce passage. Mais ce que ça laisse, ce que je voudrais vous dire, c'est justement, compte tenu de la difficulté du passage, c'est le genre de passage auquel on devrait rester humble et ne pas commencer à devenir vraiment là, comme... comment ça se fait, tu vois ça de même, etc., et se juger, tout ça, parce que, crée-moi, c'est vraiment un passage compliqué. Alors, il faut approcher ce passage avec beaucoup d'humilité et avec respect pour ceux qui n'occupent peut-être pas ma position. Et moi, je vais vous présenter quatre interprétations courantes, c'est peut-être les plus populaires. Et il y a des gens dans l'Église ici au Sentier qui occupent tous une des quatre. C'est intéressant, vous m'avez dit d'ailleurs. Alors, verset 12, « Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » Quatre interprétations. Voici la première. Le verset 12 fait référence à des événements passés et ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Alors, ça fait référence uniquement à la situation d'Éphèse. Il n'y a pas de principe universel pour nous, l'Église, aujourd'hui. Ce serait une réprimande que Paul donnerait au sujet d'une fausse doctrine qui circulait et qui était populaire à l'époque, au dire de ceux qui tiennent cette position, qui glorifiait Ève et le serpent. Influencé par le culte qu'on vouait aux femmes et les déesses dans la ville d'Éphèse, on aurait commencé à voir Ève comme plus grand et même comme si c'était elle qui aurait donné la vie à Adam. Ève serait à l'origine de la vie d'Adam et non l'inverse. On voit de telles erreurs commencer à se glisser d'ailleurs dans le gnosticisme, dans les écrits d'ailleurs. On peut voir ces erreurs-là dans les écrits des gnostiques arrivés au IIe siècle. Alors, dans ce contexte historique, Paul serait en fait en train de dire « Je ne permets pas à une femme d'enseigner cette fausse doctrine ou de se proclamer auteur de l'homme. » D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, le verset suivant, Paul va parler de l'antécédent d'Adam, selon cette position. Donc, pour les adeptes de cette position, les femmes peuvent donc enseigner dans l'Église, elles peuvent prêcher, elles peuvent être pasteurs dans l'Église, absolument, car ce passage ne s'adresse pas à nous comme tels. C'est la position d'ailleurs de l'APDC, l'Association de l'Assemblée Pentecôte, les Assemblées Pentecôte du Canada. J'ai reçu il y a quelques semaines le document officiel qui donne la position du rôle de la femme et des pasteurs femmes, et c'est la position qu'ils occupent. Ils interprètent ce passage-là comme de cette façon-là. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette position-là. Laissez-moi vous donner certaines faiblesses avec cette interprétation-là. Les textes cités par les auteurs qui promouvoient cette position-là, c'est les écrits gnostiques, n'arrivent seulement qu'au IIe siècle. Donc, c'est vraiment devancer pas mal son temps. Un autre problème que j'ai avec cette position-là, c'est qu'en fait, toutes les lettres de Paul sont des situations contextuelles. On pense à l'Église de Corinthe, il y avait 11 problèmes dans l'Église de Corinthe, et Paul les adresse, mais de ces problèmes-là et des solutions, Paul soutire des principes universels pour l'Église. D'ailleurs, on pourrait dire que toute la Bible au complet sont des situations contextuelles. On pense à Corinthe avec la viande sacrifiée aux idoles et d'autres passages. C'est un problème local, mais de là, Paul va soutirer des principes universels. Troisième chose, un dénommé Barre qui a fait sa thèse de doctorat sur la ville d'Éphèse. Alors, c'est un spécialiste de la ville d'Éphèse. Et lui, sa conclusion, c'est qu'Éphèse était une ville normale et non pas hyper féministe, où la femme avait l'autorité sur l'homme, ce qui aurait influencé certains membres de l'Église d'Éphèse à voir Ève comme le chef et l'auteur de l'homme et qu'elle aurait donné la vie à l'homme. Il n'a pas vu ça dans tous ses écrits. Selon lui, l'argument selon lequel la situation faisait référence uniquement aux femmes d'Éphèse n'est pas vraiment fondé. Il y a une deuxième position ici. Le verset 12 fait référence au couple et non à la célébration du dimanche matin et non à l'Église en général. Certains arguments sont assez forts ici pour voir ce passage-là comme si ça s'adresse uniquement au couple, donc qu'il n'y aurait pas de principe pour la grande assemblée le dimanche. Le verset 12 parle de l'attitude de la femme envers son mari. Il y a les mots dans l'originaux, ce n'est pas évident. Est-ce que c'est épouse, est-ce que c'est femme? Donc, il y a des raisons techniques que certaines personnes occupent cette position-là. On pense à d'autres passages parallèles qui sont pas mal pareils, qui parlent de la même chose. Donc, certaines personnes vont occuper cette position-là. C'est une position qui est intéressante et ça se tient bien pour diverses raisons. Par exemple, la femme n'a pas à se soumettre à tous les hommes dans l'Église, et je suis tout à fait d'accord avec ça, à part de son mari. Mais j'ai quand même certaines réserves à cette position-là. Je ne suis pas tout à fait à l'aise. Premièrement, l'habillement dans le texte. L'habillement nécessite un contexte public. Deuxièmement, le flux de la pensée de 1 Timothée parle. On a dit dans le chapitre 3, Paul dit, écoute, Timothée, si je tarde à venir, je te donne des principes pour t'aider à emmener l'Église à se conduire comme elle devrait se conduire. Donc, pour moi, toute la lettre à Timothée sont des principes sur la façon de faire l'Église et de se conduire au sein de l'Église. D'ailleurs, on est rendu à notre 9e discours sur 1 Timothée, dont 5 discours étaient le premier chapitre, et on n'arrête pas de dire depuis le premier chapitre comment Paul met l'accent sur la mission de l'Église. Il parle de l'Église, la mission de l'Église, il donne même son témoignage de sa conversion en disant « Voici ce que Dieu veut faire à travers l'Église, toucher des âmes. » Et même chapitre 2 commence à prier, la mission de l'Église, prier pour le salut des gens. Donc, c'est comme si depuis le début, il y a un flux ici, il y a comme une suite toujours qui part de la mission de l'Église, et tout d'un coup, tu aurais ce petit passage qui part du couple. À mon sens, ça me semble comme une fausse note, et ça jure un peu lorsque tu suis depuis le début. En tout cas, je trouve ça un peu fragile, mais encore là, je ne serais pas prêt à mettre ma main dans le feu pour dire que c'est exactement ça, parce qu'il y a quand même de très bons arguments qui soutiennent cela. Troisième façon de comprendre ce verset-là, le verset 12 fait référence à deux idées. Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner, alors ça c'est la première idée. La deuxième idée, je ne permets pas à la femme d'exercer de l'autorité sur l'homme. Donc, ça ferait référence à deux idées. La femme ne peut enseigner dans la grande assemblée et elle ne peut pas exercer de l'autorité sur l'homme dans la grande assemblée. Cela signifie que non seulement elle ne peut pas apporter les messages le dimanche matin ou dans la grande assemblée, mais elle ne peut pas non plus exercer un ministère, être en charge d'un ministère où elle dirigerait des hommes. Mon problème avec cette position-là, c'est que regardons les deux idées, une à la suite de l'autre. Commençons avec l'enseignement. Je trouve que cette position fait violence à d'autres passages des Écritures où Paul encourage la femme à prophétiser. Donc, à prêcher, à parler, à communiquer la parole. Je pense à 1 Corinthiens 11, où Paul exhorte les femmes à prêcher ou à prophétiser. Et dans le même contexte, Paul explique c'est quoi la prophétie au chapitre 14. Il dit, d'ailleurs, je l'ai même ici, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Et verset 31 ajoute, « Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient, quoi? Instruits et que tous soient encouragés. » Le mot « instruire » ici, selon le meilleur lexique des mots originaux, « bidang », qu'on appelait, c'est une abréviation, signifie « acquérir de la connaissance par le moyen d'instruction ». Donc, selon ce passage, la prophétie, c'est de l'enseignement, l'instruction, l'édification, l'encouragement, et c'est un message de la parole de Dieu, carrément. Alors, 1 Corinthiens, Paul est en train de dire aux femmes de la grande assemblée, « prêchez la parole ». D'ailleurs, on voit des femmes prophètes proclamer la parole de Dieu dans la Bible. Il y a des précédents bibliques pour ça. Pierre parle à la Pentecôte et il dit que le Saint-Esprit est descendu et c'est l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée dans Joël où vos fils et vos filles prophétiseront. D'autres exemples dans l'Ancien Testament, comme la prophétesse Myriam, Déborah, Hulda dans Deux Rois, les quatre filles de Philippe prophétisaient. Prenons la deuxième idée maintenant, ne pas exercer l'autorité sur les hommes. Cette position dit que la femme ne peut pas exercer d'autorité sur les hommes. Mon problème avec ça, c'est qu'on voit des femmes exercer de l'autorité dans les Écritures. D'ailleurs, le président de Prairie Bible Institute, L. Maxwell, a noté ceci, fait cette observation, qu'il y aurait 100 passages dans la Bible affirmant le rôle de leadership des femmes. Gloire à Dieu pour le ministère des femmes. Amen! Hey, vous êtes silencieuses, les femmes, là. Il me semble, là, come on! Merci, oui, t'écoutes. Merci pour Lise Lalonde, qui assume un ministère de leadership au sein de l'Église. Écoutez, il y a toute une équipe, hein? Amen, oui! Hey, écoute, c'est toute une équipe, les moniteurs, les monitrices. Elle dirige des hommes comme elle dirige des femmes. Et que dire des missionnaires? John Piper fait l'observation qu'il y a 4 femmes missionnaires célibataires pour un homme missionnaire célibataire, même plus dans les territoires dangereux. En tout, 1/3 des missionnaires sont des hommes mariés, 1/3 sont des femmes mariées et 80% du dernier tiers sont des femmes célibataires. Cela signifie que juste un peu moins que les 2/3 de la mission évangélique est féminine. Gloire à Dieu! Amen! Hey, vous êtes toute une force pour l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, il existe une quatrième position, une quatrième interprétation, celle que j'aime beaucoup. Verset 12 fait référence à une seule idée, mais avec 2 volets. On parle de la même idée avec 2 aspects, d'accord? 2 fonctions, mais une seule, pas 2 fonctions, mais d'une seule avec 2 aspects. Elle peut donc enseigner, elle peut prêcher, on l'a vu tantôt dans les Corinthiens, mais il y a une restriction toutefois, c'est qu'elle ne peut pas être le docteur de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu dans notre série sur 1 Corinthiens, la série virale, quand on est arrivé au 18e discours, c'est disponible en ligne, quand on a touché 1 Corinthiens 14, qu'il fallait évaluer les messages, évaluer les prophéties. Les prophètes sont soumis aux prophètes, etc. Et que cette évaluation-là, finalement, repose sur les anciens de l'Église. Et Dieu a confié ce rôle d'ancien à des hommes. Le docteur de l'Assemblée fait référence aux personnes qui surveillent la saine doctrine au sein de l'Église. Cette tâche appartient aux anciens de l'Église. C'est aux anciens de l'Église de juger les enseignements pour savoir si ce qui s'enseigne au sein de l'Église est biblique. Ils sont donc les surveillants. C'est d'ailleurs le même mot grec qu'on voit dans juste le chapitre suivant, qu'on va voir dans 2 semaines, où Paul va parler de ceux qui aspirent à la charge d'évêque. Le mot « évêque », dans le meilleur lexique qui existe, le bidag, encore je reviens avec ce lexique-là, ça dit que ce mot-là, « évêque », était utilisé même dans le monde séculier quand on parlait de gardien. Donc voici les gardiens de la saine doctrine, c'est ça le rôle des anciens. Ce sont les anciens qui doivent aller jusqu'à même excommunier les faux docteurs qui s'introduisent dans l'Église et sèment la division dans une Église. Ce sont eux qui examinent et évaluent les prophéties, c'est-à-dire les messages, etc., les enseignements au sein de l'Église. D'ailleurs, si tu prends les 3 lettres pastorales, on appelle ça des lettres pastorales parce que c'est des lettres qui s'adressent à des leaders d'Église, et Paul écrit les 3 lettres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, à des leaders pour leur montrer quoi faire avec les faux docteurs. Puis les faux enseignements dans l'Église. Eh bien, 20% de ces 3 lettres-là ensemble, 20% portent sur des fausses doctrines et comment les corriger. Alors, c'est sérieux et ça appartient justement à toute l'Église. Tous les membres doivent vérifier les Écritures pour savoir si on est biblique. Absolument. Mais il y a une tâche qui incombe sur les épaules des anciens que Dieu leur a confiée et pour lesquelles nous serons responsables devant Dieu, de surveiller que ce qui s'enseigne ici est selon la saine doctrine. Alors, oui, si les femmes peuvent prêcher, comme on l'a vu dans 1 Timothée, elles ne peuvent pas être pasteurs, elles ne peuvent pas être anciens. C'est tous les mêmes mots, évêque, ancien, pasteur et tout ça. On le voit dans les Écritures. Par exemple, Jésus a choisi 12 apôtres, tous des hommes. Paul donne les critères pour être des anciens. Il parle juste aux hommes. Il n'y a aucune femme ancien ou pasteur dans tout le Nouveau Testament. Ce n'est pas une question de supériorité ou infériorité, tout ça. C'est Dieu, dans sa souveraineté, a décidé qu'il en soit comme ça. Et d'ailleurs, même Paul va ajouter 2 raisons qui ne nous aident pas beaucoup, c'est un peu complexe. Paul donne 2 raisons pour expliquer pourquoi ce sont les hommes qui doivent assumer la direction de l'Église. L'ordre créationnel et la responsabilité d'Adam. Verset 13 dit, « En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Ça, c'est l'ordre créationnel. Paul ne donne pas d'explication, on aurait aimé ça de l'avoir. Je pense que ça fait référence au premier-né dans l'Ancien Testament qui recevait une responsabilité supplémentaire tout de suite après le père. Il était responsable du foyer, mais ça, c'est juste moi là, qui je m'amuse à trouver des raisons, mais en tout cas, je ne le sais pas vraiment, pour être très honnête avec vous. Verset 14, « Et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Alors, est-ce que Adam était moins coupable? Absolument pas. Adam était là à côté, on le sait, il a donné le fruit. Ève, il a donné le fruit, puis il était là. Non, c'est comme les deux sont coupables, d'ailleurs. Puis Adam avait reçu la responsabilité de surveiller le foyer, de prendre soin, de garder, de protéger contre les assauts de l'extérieur. Puis lui, il fait juste regarder sa femme, puis OK, il y a une belle discussion. Hey boy, wow, OK, ouais, puis OK. Tu sais, c'est comme... Et pourtant, c'est elle qui a été séduite. Et Dieu qui va voir? Il va voir l'homme. Puis il dit, qu'est-ce que tu as fait? Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il est responsable du foyer. Alors, une femme vit pour l'Évangile en répandant une bonne odeur de l'Évangile, en s'instruisant et en mettant en pratique la parole de Dieu, en exerçant ses dons sous la responsabilité des anciens. Alors, vous comprenez pourquoi je l'ai formulé comme ça. On parle ici de l'évaluation des prophéties, c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne façon de la formuler. Et quatrièmement, une femme vit pour l'Évangile en portant du fruit pour la gloire de Dieu. Verset 15. « Cependant, elle sera sauvée en devenant mère, descendance, et elle, si elle persévère, avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. » La phrase « elle sera sauvée en devenant mère », certains voient ici une allusion à la chute avec Adam et Ève. Étant donné qu'Adam et Ève ont péché, ils ont reçu des conséquences au péché, à cause de leur péché. La femme, par exemple, a reçu la conséquence d'une grossesse plus difficile. Et une deuxième conséquence, selon cette théorie, c'est qu'elle aurait tendance à dominer, à usurper le leadership du foyer. Et il y aurait donc ce litige, ce conflit perpétuel entre l'homme et la femme. Et l'homme, en retour, à cause du péché, aurait tendance à dominer. Il y aurait ce conflit-là continuel. Ça vient d'où, ça? Ses désirs se porteront vers son mari. Bien, certains font un lien avec un passage qui suit juste après le chapitre suivant dans le livre de la Genèse, où Caïn est tenté de faire du mal à son frère et Dieu l'avertit. Dieu le visite et lui dit, « Écoute bien, Caïn, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est à toi de dominer sur lui. » Alors, certains disent donc, l'une des conséquences de la chute, c'est que la femme et l'homme seront constamment en litige pour prendre le leadership dans le foyer. La femme aura le désir de prendre le leadership et l'homme va chercher à son tour de dominer. Et certains vont donc appliquer cela à 1 Timothée chapitre 2, verset 15 et font donc la lecture suivante. La femme donc doit se soumettre, mais elle sera sauvée, en guillemets, de la conséquence du péché en devenant mère, en voulant dire, oui, elle doit se soumettre, mais elle n'est pas obligée de se soumettre à ses enfants, puis elle peut exercer son ministère de leadership, elle peut avoir du leadership envers ses enfants et avoir une influence envers ses enfants. D'accord? C'est une des théories. Personnellement, j'ai la difficulté avec cette interprétation-là. Premièrement, ce n'est pas vrai que toutes les femmes cherchent à dominer dans le ménage, hein? On s'entend. Et deuxièmement, un dénommé Irving Busnitz a écrit un article intitulé « Woman's Desire for Man », le désir de la femme pour l'homme, et il présente une dizaine d'arguments pour démontrer que ce n'est pas une bonne façon de comprendre le mot « désir ». L'un de ces arguments, que je trouve très fort, il a remarqué que les trois personnages de la chute, Satan, le serpent et l'homme, ne reçoivent qu'une seule conséquence à leur péché. Et après, un petit commentaire et une explication. Et alors, on arriverait à la femme, puis elle recevrait deux conséquences au péché. Une grossesse plus difficile, puis elle va chercher à dominer son mari. Là, écoute, voilà ce qu'il dit, lui. Il dit, non, il y a une meilleure façon de comprendre ça. Il est mieux de comprendre qu'il n'y a qu'une seule conséquence à son péché, à savoir la grossesse difficile, et ensuite, ce serait suivi d'explications. Alors, comme les autres, comme les trois autres personnages impliqués dans la chute. Donc, les quatre recevraient une conséquence. Alors, comment comprendre le mot « désir » Bien, Busnitz le formule comme ceci. Il dit « Sa grossesse sera maintenant plus difficile, mais elle va continuer à désirer son mari et désirer d'avoir des enfants, permettant ainsi la population de la terre. » N'oublions pas qu'on est dans le contexte de la création, de Genèse, Adam et Ève ici. En d'autres mots, malgré les difficultés de la grossesse, elle n'évitera pas le mariage et l'enfantement. Alors, à la lumière de cette explication-là, comment comprendre 1 Timothée 2,15? Il ne faut pas voir ce verset plus compliqué qu'il le faut. Verset 15. « Cependant, il sera sauvé à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. » Tout ce que ça veut dire, c'est qu'elle va porter des fruits de l'Évangile. Elle vivra sa féminité dans le Seigneur, va porter des fruits. Ça fait penser aux quatre terres, la terre, la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu, porte des fruits, sa vie est transformée. Ça fait penser au verset qui dit « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé ». On sait bien par le reste des Écritures, hein, on dit que les Écritures expliquent les Écritures, on sait par le reste des Écritures qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est uniquement par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. On sait qu'on ne peut pas perdre le salut. Alors, ça veut simplement dire que la personne qui a Jésus dans sa vie va porter du fruit, tout simplement. Maintenant, pourquoi parler d'enfantement? Bien, ça représente un tout. C'est l'un des aspects d'être une femme, mais ça englobe tout le reste. C'est une figure de style qu'on appelle une synecdoque. Par exemple, si je dis « j'ai un troupeau de 100 têtes », on comprend que ce n'est pas juste des têtes, il y a tout un body, un corps qui vient avec ça, c'est des animaux complets qui viennent avec ça, mais c'est une figure de style. Ça représente le tout. De même, lorsque Paul dit « elle sera sauvée en devenant mère », le mot « enfantement » représente simplement l'un des multiples rôles des femmes qui les distinguent des hommes. C'est un morceau de la vie d'une femme. Ça représente tout le reste. Ce qui distingue une femme d'un homme, c'est notamment sa capacité de pouvoir enfanter. C'est tout simplement ça. Elle va porter des fruits. C'est pour ça que je l'ai formulé comme ça, ce point-là. Elle porte des fruits. Maintenant, Paul n'est pas en train de dire que toutes les femmes doivent enfanter, puisque 1 Corinthiens fait l'éloge de la vie de célibataire. Et il dit que c'est super la vie de célibataire. Donc, ce n'est pas le point, c'est général. Le point est simplement qu'elle marche avec le Seigneur, selon la parole de Dieu. Elle porte des fruits de l'Évangile. Alors, c'est ça le message de ce passage. Et le message qui ressort, la grande idée de tout ça, c'est justement, mesdames et messieurs, parce que juste avant, ça parle des messieurs, vous et moi, nous voulons vivre pour l'Évangile. Nous voulons prier et vivre pour l'Évangile. Et quand on marche avec Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que Dieu va toucher des gens autour de vous. C'est ça qu'il veut, parce qu'on a vu au verset 3 dans le même chapitre, ce qu'il veut, ce qui est agréable pour lui, c'est qu'on prie pour le salut des gens, parce que Dieu veut sauver des gens. Et deuxième raison, Jésus est allé à la croix pour ça, pour sauver des gens. Donc, en plaçant Jésus au centre de notre vie et refléter la grâce de l'Évangile et la beauté de l'Évangile dans notre vie, qu'on soit femme ou homme, Dieu va toucher des vies autour de nous, dans notre communauté, pour les gagner à lui. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous accompagnes de jour en jour dans quel que soit le rôle que nous devons assumer. Ton Esprit Saint nous accompagne, ton Esprit Saint nous aide, nous donne la force et la puissance. Et l'Évangile est la puissance de Dieu. Seigneur, merci parce que nous avons tout en toi pour marcher avec toi, et te plaire et te glorifier. D'avoir une vie qui t'honore, que nous soyons épouses, que nous soyons célibataires, que nous soyons mariés. Seigneur, ce qu'on veut, c'est t'honorer, te glorifier, et on veut voir des gens que nous aimons autour de nous, des gens de Gatineau, l'Outaouais, venir à toi pour être sauvés, nés de nouveau. Alors, on te prie, Seigneur, que tu puisses faire justement un réveil autour de nous, dans toute la communauté de l'Outaouais, qu'on voit des centaines de personnes même venir à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.